Tu vois, pour reprendre, exemplariser ta proposition, sur Clermont, on a eu un jeune maître de conf qui était spécialiste du conseil pédagogique, qui était donc en formation initiale, donc il n'avait aucune expérience d'enseignant ou de conseiller pédagogique, puisqu'il avait 26-27 ans, et qui en fait une thèse sur le conseil pédagogique, connaissant bien la littérature internationale, co-intervenait dans un premier temps avec des chevronnés, donc avec des enseignants chevronnés, et il apportait un autre regard, une valeur ajoutée, très nettement, par rapport à la connaissance même du métier. Donc là, il y a peut-être la possibilité de créer comme ça des alliances assez intéressantes. D'autres éléments de réponse sur cette question ?
Moi, je rebondirais bien sur ce que tu viens de dire sur l'alliance, parce que je trouve que, pour le vivre depuis 3 ans maintenant, ça rejoint ce que tu disais, c'est que le fait d'avoir des infirmiers, des enseignants, des gens de mouvement de jeunesse, des enseignants, enfin des formateurs d'école de conduite, ce qui devient intéressant, c'est de leur permettre de travailler sur ce qu'on vient de dire, c'est ce qui les rapproche, qui fonde des métiers de l'humain, et puis ce qui fait que c'est spécifique. Et ce travail-là, qu'il leur est proposé en permanence, qu'on ne pouvait pas faire quand nous avions que les profs des écoles IMF, parce que il n'y avait pas de décalage. Voilà, on peut profiter du décalage en formation. Alors la question telle que tu la poses, moi, c'est est-ce que on peut décaler à partir de rien ?
D'ailleurs, je crois que ces masters de formateurs posent bien la question de ces décalages et de cette capacité à s'excentrer par rapport à ces problématiques. J'ai été simplement, pour l'anecdote, invité un jour à présenter mes travaux sur les observatoires des jeunes profs à des arbitres de haut niveau. Je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire là et dans quelle mesure ça pouvait les intéresser. Pour eux, c'était incroyable, entre des jeunes profs sur Créteil en train de se faire... en train de construire des règles, en train de construire du regard noir, etc., des gestes professionnels. Ils avaient exactement ces mêmes préoccupations, si ce n'est que dans un stade de France, il y a 80 000 personnes autour, parents d'élèves prêts à juger de la décision. Mais bon, ça, c'est une pression supplémentaire. Mais en tout cas, ils voyaient plein d'éléments similaires dans la construction et le développement des arbitres de haut niveau.
Question. Peut-être juste sur la question que vous aviez posée, un point de vue. Moi, je considère tout à fait normal que les universités se préoccupent de proposer des masters de formation de formateurs sans forcément penser à formateurs d'enseignants. Mais du côté du rectorat, l'intérêt que nous voyons, nous, à ces masters, c'est la formation de formateurs d'enseignants. Je trouve de l'intérêt à ce qu'éventuellement, dans le cadre de leur formation, ces formateurs d'enseignants soient confrontés à des problématiques d'autres formateurs. Et c'est intéressant. Moi, j'ai un exemple dans la formation des cadres et des inspecteurs et des personnels de direction. Actuellement, il y a des stages en entreprise qui sont obligatoires. Mais pour connaître une entreprise, non pas dans la dimension simplement de connaître le fonctionnement d'une entreprise, mais comprendre les problématiques d'un cadre dans l'entreprise, les modes d'organisation, de fonctionnement, et avec l'idée que peut-être il y a au niveau de l'entreprise, au niveau des cadres, au niveau des formations, de la DRH, etc., des choses intéressantes à apprendre. Et donc, du coup, ces formations, on les a organisées avec une préparation qui se fait avec des formateurs du MEDEF et des formateurs éducation nationale. Et on a trouvé, effectivement, que cette confrontation, cet échange, ce lien est intéressant. Ensuite, je me dis qu'un master de formation de formateurs, quand vous dites qu'un formateur qui a ce master, il peut intervenir alors qu'il a 22-23 ans, tout de suite en formation, je me dis les masters à destination des enseignants, c'est bien ça. Ils vont être formateurs dès lors qu'ils sont enseignants. Former un enseignant par master, on estime que ça suffit, que ça lui permet normalement d'exercer son métier tout de suite. D'autres formateurs ont d'autres publics, mais pour certains, ils peuvent intervenir tout de suite. Je suis un peu plus réticent lorsque le public est un enseignant chevronné, expérimenté face à des réalités. Et je comprends qu'ici ou là, l'apport de tels très jeunes... universitaires ou intervenants qui apportent de façon pointue à propos d'une intervention quelque chose, c'est bien. Mais on sait que les enseignants en formation continue apprécient qu'il y ait un minimum d'expérience et de connaissances des réalités qui sont les leurs. Mais à contrario, je dis qu'on ne peut pas être formateur si on n'a pas acquis des méthodes, si on n'a pas acquis des connaissances, si on n'a pas, on ne s'est pas informé de ce que apporte la recherche et les résultats de la recherche. Donc je pense qu'il faut cette formation et il faut l'expérience.
C'est bien, comme disait Françoise, donner confiance aux professionnels, mais c'est aussi prendre au sérieux le travail des professionnels. Et il faut développer des cadres à la fois rigoureux et éthiques pour investiguer le travail des professionnels. Mmh. Et là, c'est vrai qu'on peut imaginer que des gens un peu formés à ça, quel que soit l'âge, puissent le faire, ou en tout cas participer à ça. Question. Je me déplace cette fois-ci, je vais faire une autre activité. Question, réaction, interrogation.
J'ai failli prendre Anne-Marie l'inaugurale.
Parole libre de la retraite.
Oui, je voudrais poser une question à tout le monde, mais en partant peut-être de l'affirmation de Richard Etienne tout à l'heure sur le problème de la fin de l'isomorphisme. Parce que quand on a été habitué aux écoles normales, puis aux UF, dans les UFM, à la formation premier degré, des PE, il n'y a jamais eu d'isomorphisme, puisque c'était des profs du secondaire qui formaient des instits, des futurs instits, sans jamais avoir mis les pieds dans une classe primaire. Donc, quid de ça? Moi, il me semble que vous avez tous adopté très récemment, c'est une phénomène, le modèle second degré comme étant le modèle standard de la formation des enseignants, où on aurait un enseignant du secondaire deviendrait formateur dans l'enseignement du secondaire. Ça n'a jamais été le cas pour la formation du primaire, sauf à remonter dans les années 1920, parce que déjà dans les années 1930, c'est plus le cas. Les formateurs d'instituteurs sont les anciens des EPS ou des écoles normales supérieures qui forment, préparent les normaliens au BS, au brevet supérieur, et qui eux-mêmes n'ont pas été instituteurs. Donc là, je voudrais vous poser cette question-là. Simplement, moi, ce qui me semble qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui est peut-être très français, mais je ne suis pas sûre, c'est qu'on est entré quand même dans un système de diplomite généralisé, universel, avec l'idée qu'il est nécessaire d'avoir, dans une hiérarchie des compétences et des transmissions, un diplôme égal ou supérieur de ceux que nous avons à former, comme s'il n'était qu'une question, non pas de contenu, mais de niveau de qualification. Ça veut dire qu'on a adopté les standards internationaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous pousse à ça, c'est que le niveau de diplôme, non pas le contenu du diplôme, c'est-à-dire la compétence spécifique qu'il donne, mais simplement la qualification en termes de 1, 2, 3, 4, 5, est un standard de développement international et peut permettre des comparaisons intéressantes. Je trouve qu'il ne faut pas adopter ça aveuglément. Vous voyez ce qui est en train de se passer sur le problème des masters pour délivrer des compétences pour être acteur, pour être plasticien, pour être musicien, pour être... En ce moment, c'est en train de mettre une pagaille à l'intérieur des services culturels, parce que les universités sont aussi en train de faire leur job à vendre du diplôme de partout. Et là, il me semble qu'il y a, même si moi je me réjouis beaucoup de l'entrée du souci de masterisation et de professionnalisation à l'université, il ne faudrait pas adopter tel quel ce modèle comme étant un modèle universalisable avec les risques que c'est. Alors, et je pose la dernière question sur ce problème de la hiérarchie des fonctions. Il me semble qu'un des points sur lesquels je voudrais, je dirais dans le même malaise un petit peu aussi que le directeur de l'UFM sur les orientations internes, que disait Françoise, c'est qu'on est dans une situation où on veut élever un niveau symbolique de qualification, enfin le niveau de qualification de tout le monde, sans rien à la clé du point de vue des valorisations statutaires. Au contraire même, je dirais, on risque de faire des futurs masterisés, les futurs maîtres auxiliaires bien plus bon marché que des titulaires, pour des remplacements dont personne ne pourra dire qu'ils sont de bas niveau de qualification. Alors là-dessus, est-ce que vous sentez les enjeux de ce point de vue-là et comment vous voyez se dessiner les choses dans l'avenir ?
Qui commence ?
Il y a trois questions. Il y a trois questions. Il y a au moins celle de la pédagogie pratiquée dans les écoles normales. Alors moi, je me sens tout de suite, et je le dis à l'aise incompétent. Quand je parlais d'isomorphisme, c'est la culture des années 80 à 2000, c'est clair, et c'est pas les feu les écoles normales et les IUFM, comme a écrit un collègue qui lui connaît bien les écoles normales. Donc après, il y a la question du diplôme et de la hiérarchie, mais c'est pas nouveau, et puis c'est pas aussi français que ça, hein, quand on regarde comment les choses se passent au Québec, comment les choses se passent dans les cantons suisses, etc. C'est le fait que tout est universitaire. C'est nous qui sommes en retard. Donc, pardon.
C'est nous qui sommes différents.
Ouais, on est différents, on est en retard. Ça dépend comment le point de vue qu'on adopte.
On a encore des concours.
Voilà. Non, mais c'est qu'il y a une tradition de la fonction publique en France qui repose sur les valeurs républicaines de l'universalité, de l'égalité, de la laïcité. Et après, quand on regarde bien dans les détails, on n'est pas aussi universel qu'on pensait l'être. Donc, cette question-là, moi, je la vis à travers d'abord un souci de crédibilité des formateurs par rapport à leur métier. Quand on rencontre les formateurs d'IFSI, c'est vrai qu'il y a un désarroi par rapport au fait que leur futurs étudiants ont déjà parfois la licence, comme les PE2 ont parfois des doctorats. Hein. Donc il faut faire attention que derrière, il n'y a pas juste un enjeu de simplement relations personnelles et hiérarchiques. Je crois qu'il y a une très très grande complexité qui est liée à l'évolution de l'individualisme démocratique dans lequel on se demande un peu quel diplôme tu as pour me parler comme ça, toi. Voilà. Bon. La troisième question, mais c'est celle que j'ai posée moi aussi. C'est cette absence. Et puis Françoise. Et puis je pense qu'on est très nombreux. Il y a une absence d'enjeux statutaires, d'enjeux institutionnels. Et puis je crois que ça range bien au niveau politique, hein, parce que je suis là aussi pour faire des analyses politiques. Ça arrange bien de refiler à l'université la formation des enseignants, dans la mesure où ça fait gagner 30 000 postes. À une époque où on en supprime 13 000 une année, 16 000 une autre année, je vous fais ça à la louche. Et il est évident que cette opération-là, il y a des bénéfices secondaires qui vont avec la promotion d'une image. Regardez nos enseignants. Alors j'étais à une journée des cahiers pédagogiques où il y avait, je crois c'était Luc Sédel, qui disait « Vous, les enseignants, vous êtes redoutables, parce que dès qu'on réforme quelque chose, vous voyez deux coups plus loin. » Donc dans la masterisation, il faut voir deux coups plus loin. C'est-à-dire il y a la masterisation qui est revalorisation, c'est indiscutable, mais il y a aussi la masterisation qui est suppression de l'intérêt du recrutement par concours de la fonction publique. Donc ça a été dit, c'est clair. Et derrière ça, il y a cet enjeu-là. Et dès cette année, moi, je sais, au moins pour Montpellier, que le recrutement des remplaçants dans le premier degré ne s'est plus fait sur liste complémentaire. C'est-à-dire qu'on a abandonné un système qui avait été mis en place, qui faisait que les personnes qui remplaçaient étaient listes complémentaires, donc dans le mérite. Et voilà les principes républicains. Et ils étaient dans le mérite. Et ensuite, ils pouvaient avoir la formation. C'est le paradoxe. Mais maintenant, on va avoir une agence de l'emploi, un pôle emploi, puisqu'il n'y aura pas une agence pour les enseignants. On va avoir un pôle emploi qui recrutera. Vous avez un master. Ensuite, vous allez être recruté par l'établissement. Il faut savoir qu'en Angleterre, par exemple, l'État ne recrute plus aucun enseignant, puisque ce sont les écoles qui sont elles-mêmes des organisations charitables.
D'autres éléments de réponse?
Ouais, je vais peut-être essayer de répondre, je ne sais pas. Mais les listes complémentaires dont Richard Etienne vient de parler, peut-être qu'il faut le regretter, mais enfin, regretter à ce point-là les paradoxes, moi, ça me défrise un peu quand même, parce que jusqu'à preuve du contraire, les listes complémentaires ne sont pas les lauréats du concours. Hein, c'est les mieux placés de ceux qui ont échoué. Donc, on est quand même en train de dire, bon, c'est pas pour polémiquer avec vous, parce qu'en fait, c'est pas ça que j'ai en tête, mais on est en train de dire, dans de nombreux débats, que la réforme en cours, elle détruit des monuments de rationalité, d'exemplarité. Enfin, faut arrêter avec ça. Moi, l'an dernier, j'ai été obligé de polémiquer, mais tous les jours, avec des collègues qui venaient me dire l'année de formation professionnelle, qu'on va la détruire. Mais enfin, les mêmes, avant que cette réforme soit lancée, étaient bien d'accord pour dire qu'on nous donnait comme mission l'impossible. C'est pas en 8 mois qu'on peut former professionnellement des enseignants. On est bien d'accord avec ça. Enfin, j'espère qu'on est bien d'accord aussi, enfin au moins ici, pour dire que les concours de recrutement, tels qu'ils étaient, ils seront peut-être mieux que ceux qui vont venir, mais enfin, ça, on n'en sait rien encore. Mais tels qu'ils étaient, n'étaient pour le moins pas très satisfaisants. Hein. Donc, c'est aussi ça le problème. Alors, pourquoi je dis ça ? Bah, parce que moi, je pense que la mastérisation, c'était une occasion. Pour diverses raisons. Hein. C'était une occasion de régler un certain nombre de vrais problèmes. Malheureusement, ça n'aura pas été cela, enfin, sauf miracle dans les semaines qui viennent, ça n'aura pas été cela, parce que tout a concouru pour renforcer le pire du pire. Là, je parle, c'est un point de vue très personnel, ce que je vais dire maintenant. Le pire du pire en matière de conception de l'enseignement et de la formation des enseignants. C'est quoi l'histoire ? C'est, je vais la faire très court, c'est un président de la République qui a décidé que les IUFM, il fallait s'en débarrasser parce que c'est facile à dire, c'est pas si facile que ça à faire. Et puis, ça participe d'un positionnement idéologique très clair. Hein. Il faut solder cette idéologie dite de 68, bon, qui n'est pas si... puisqu'il n'y a pas seulement 68 armes. Bon, moi, je suis convaincu qu'au début de tout cela, il y a principalement ce problème. Bien sûr qu'il y a les bénéfices secondaires, les économies budgétaires, etc., etc. Il y a aussi... tout le monde l'oublie pendant le débat... On en pense qu'on en veut, mais il y a des agendas européens. La France n'a pas particulièrement anticipé sur quelques questions redoutables, telles que celle du recrutement de ses fonctionnaires. Donc ça, c'est aussi un des éléments du problème, mais dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé idéologie, parce qu'on a parlé... Et moi, j'en suis désespéré. Qu'est-ce qui s'est passé dans les universités l'année dernière ? De quoi a-t-on parlé ? Derrière la lutte contre la réforme du statut des enseignants-chercheurs, derrière le rejet de la mastérisation, on a parlé de la défense de la discipline comme principe fondamental de l'identité personnelle, professionnelle, etc. C'est le retour, moi je le dis comme je le pense, j'espère me tromper, c'est le retour à la discipline comme seul garant d'une identité. Alors il se trouve que je suis sociologue, comme beaucoup de sociologues, la notion d'identité me pose problème. En voilà un exemple. Et puis que la discipline et la monodiscipline soient le garant d'identité, ben c'est la catastrophe pour la formation des enseignants. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, enfin je sais qu'il y en a parmi vous qui ont dû se bagarrer. Mais on n'en est pas venu aux mains, mais parfois les mots étaient aussi forts que si ça avait été des coups, avec des collègues universitaires, plutôt dans le secteur des lettres et sciences humaines, j'en conviens, pour là-dessus. Hein ? Moi, j'ai des collègues de l'IUFM, tout à fait éminents, tout à fait respectables, qui sont revenus, mais humiliés. Et pas parce que ils avaient en face d'eux des gens qui étaient des méchants, éventuellement même des amis, mais humiliés, parce qu'ils voyaient s'effondrer tout d'un coup la capacité à défendre ce qui nous réunit certainement encore aujourd'hui. Donc je sais bien qu'en disant cela, je ne parle pas de formation de formateurs, mais je dis que la situation dans laquelle nous sommes, c'est celle-là, et enfin... C'est comme cela que je la vois, pardon, je ne sais pas si c'est celle-là, c'est comme cela que je la vois, et ça explique un petit peu le point de vue que j'ai adopté tout à l'heure. Je pensais, juste après, permettez-moi juste cette phrase, et puis vous comprendrez un peu comment je fonctionne, c'est Francis Scott Fitzgerald qui disait, qui écrivait, « Savoir que les choses sont inéluctables et faire comme si elles ne l'étaient pas ». Bon, ben voilà, c'est bien là où nous en sommes, mais il faut quand même être au clair sur ce qui se passe. Alors c'est pour ça que, bon, moi je disais tout à l'heure, l'isomorphie, c'est pas ça dont je parlais. Mais quand je parlais d'endogamie, bon, sortons d'endogamie. Sortons du repli disciplinaire, ça je rajouterai, y compris en matière de formation de formateurs. Et moi j'adhère complètement à ce qui était dit tout à l'heure par mes voisins sur la nécessité que soient réunis dans la formation de formateurs, autant que faire se peut, des enseignants et d'autres travailleurs de l'humain. Je crois que c'est une bonne orientation.
Mais monsieur Bernard, pour essayer de reprendre votre propos et revenir sur la formation de formateurs, on s'aperçoit qu'on ne peut pas former des enseignants à une seule discipline scientifique et on passe notre temps dans les UFM à se battre pour montrer l'enjeu d'une professionnalisation qui ne soit pas péjorée et qui montre la difficulté de faire cette transformation identitaire et professionnelle. C'est la même chose au niveau de la formation de formateurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une formation de formateur soit autre chose qu'une instruction ou simplement un travail sur l'expérience préalable pour qu'il y ait vraiment cette capacité à développer de nouvelles compétences. Lesquelles ? D'autres remarques, questions ?
En attendant, peut-être juste une petite réaction par rapport à la course au diplôme dont vous parliez tout à l'heure. Peut-être par rapport à cette réflexion, mais je me disais, là, on est mis devant le fait accompli, c'est-à-dire que les enseignants seront désormais formés au niveau master. Donc, avoir cette réflexion sur le diplôme nécessaire aussi pour des formateurs et développer du coup une réflexion sur, au fait, c'est quoi une formation de formateur, je trouve que ça, c'est intéressant, et l'échange qu'on a autour de cette question-là. Après, je vous rassure, en ce qui me concerne, je vais continuer d'engager des formateurs non diplômés, parce que certains sont excellents, sans avoir de master ni de diplôme. Mais comme désormais, tous nos enseignants auront ce niveau-là, c'est intéressant de se poser la question, il me semblait. Quant à l'avenir de nos étudiants désormais masterisés, est-ce qu'il sera plus difficile, plus incertain que les étudiants qui, au bout, eux aussi, de 4 ou 5 années, échouaient les concours sans rien d'autre en poche qu'une licence, je pense que leur avenir ne sera pas plus incertain, peut-être loin de là.
Marie-France Bacchialoni, IAIPR de physique-chimie. Je voulais réagir un petit peu sur ce sombre constat de mort programmée des IUFM. Nous sommes certes dans un contexte plus que délicat où des injonctions sont venues de façon autoritaire, mais en même temps, je dirais que elles ont accouché parce qu'elles étaient en germe. Lorsque je suis rentrée dans le corps des IAIPR, on était au stade de la passation des MAFPEN, précisément dans le giron des IUFM qui étaient de jeunes instituts. Et l'institution de l'époque indiquait que quand un dispositif ne fait pas la preuve de sa performance, eh bien, il subit des évolutions. Et peut-être faut-il aussi s'interroger, en ce qui concerne les IUFM, sur ce que certains sortants d'IUFM ont fait émerger dans la grande presse. Mais au-delà de ce constat qui annonce forcément un changement, et un changement, c'est toujours préoccupant et déstabilisant, il me semble qu'il y a des enjeux d'envergure, et je suis un peu frappée par le fait que on n'a pas eu vraiment d'amorce de réponse, de proposition de réponse aux questions posées. Quels effets attendus des masters ? Il me semble qu'il y a quand même... C'est un enjeu d'importance. Je trouve que c'est un peu dur de dire que passer d'une formation, puisque le niveau requis actuellement, officiellement, c'est un niveau licence, L3, dire que passer d'un bac plus 3 à un niveau bac plus 5, il n'y aura pas quand même, au niveau des compétences professionnelles, une valorisation. C'est quand même un peu dur de l'entendre, de la même façon que passer du statut d'instituteur, qui est un magnifique métier, mais qui était un métier de catégorie B dans la fonction publique, à celui de professeur des écoles, qui est de catégorie A, avec une échelle de rémunération conséquente et fortement conséquente, il y a quand même eu des enjeux d'importance. On peut aussi... C'est intéressant de poser quelle reconnaissance professionnelle. Pour le moment, formateur, nous sommes tous convaincus que c'est un métier avec des compétences que personne n'a définies, mais qui exige des compétences, je ne vais pas dire bien circonscrites, parce que ça serait peut-être enfermé ce métier, mais qui exige. Peut-être que ce métier sera un jour reconnu dans la fonction publique. Pour le moment, ça ne l'est pas, mais personne ne peut nous empêcher de l'imaginer. Notre premier intervenant a posé ce matin la question des métamasters ou des proto, je crois, ou proto-masters. Il me semble que là, il y a vraiment des questions fortes à interroger. Est-ce que on est encore dans la reconduction des choses qui ont existé? Et certaines sont tout à fait valides. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut repartir des DESS existants pour simplement améliorer un petit peu le contenu? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus innovantes à mettre en place? Et il me semble que là, ce sont des choses que nous n'avons pas, des réponses que nous n'avons pas eues aujourd'hui, et que je regrette un peu. Voilà, je représente l'institution, moi aussi.
Qui veut répondre? Patrick ou la table ronde?
Juste un mot pour dire que je pense qu'il y a des écoutes sélectives aussi, et que dans les propos que certains ont tenus ici, il y avait des réponses à la fois aux effets attendus et aux propositions en matière de façon nouvelle de penser ces masters de formation de formateurs. Donc je pense qu'on pourra réécouter. Ah, mais les réponses franchement explicites, on ne les trouve que dans les BO, certainement.
En tout cas, je ne veux pas répéter moins bien ce qu'a dit Françoise Lantôme, toujours de manière extrêmement explicite, mais si effectivement on pense que l'augmentation de la formation des enseignants de 2 ans de plus, c'est pour avoir 2 ans de qualification disciplinaire de plus, que grâce à cette meilleure maîtrise disciplinaire, ils seront de meilleurs enseignants, il y a un certain nombre de gens autour de la salle, enfin dans la salle, qui, à différents niveaux de l'institution, et... L'inspection générale vient de faire un petit rapport sur l'aide individuelle aux élèves dans les écoles primaires, qui dit des choses pas inintéressantes dans le continuum de ce qu'avait dit Anne Armand sur les difficultés des enseignants face aux élèves des milieux prioritaires. Je pense que s'il y a, que ce soit pour la formation des enseignants ou la formation des formateurs, un intérêt à la masterisation, c'est de penser sur un cursus long. Certains disent aujourd'hui 7 ans. Tant qu'on ne pensera pas l'articulation en biso, entre qu'est-ce que c'est construire une compétence professionnelle appuyée sur la compréhension du rapport au savoir des élèves, alors on sera toujours condamné à fabriquer, et dans mon académie ça se fait comme ça toujours, malgré nous, d'un côté des formations de T1, T2 disciplinaires, et puis de l'autre côté des modules transversaux dans lesquels on enverra des chefs d'établissement expliquer ce que c'est l'éthique professionnelle. Quelle que soit la qualité individuelle des gens qu'on envoie dans ces casse-pipes-là, ça ne peut pas faire de l'efficience. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de gens ici qui ont dit ce que ça pouvait être la compétence d'un formateur. Juste moi, à mon niveau très modeste, si on dit, est-ce que en tant que formateur, vous êtes capable de vous départir de vos positions pédagogiques, arrêter de penser que les gens qui sont en face de vous sont à transformer parce qu'ils sont peu efficients, et qu'il faut que vous arriviez à comprendre leur logique d'action différente, et que dans votre position de go-between, vous avez suffisamment de compétences de différents ordres, de différentes disciplines de recherche pour arriver à être efficace là-dedans,
alors oui, on pourra vous valider une certification, une qualification. Mais, je veux dire, la recherche avance là-dessus de manière, à mon avis, assez forte. Et je pense que le travail initié par l'INRP depuis quelques années là-dessus y contribue.
D'autres une réponse, une autre question. Là, je me laisse porter par les flots.
Moi, je veux bien juste, pour revenir à l'isomorphisme, parce que je trouve que ça pose des questions dans un champ qui est le mien, puisque tout à l'heure, j'ai dit qu'un des effets de l'évolution dans ces 20 années, ça avait été de changer de référents théoriques ensemble, l'ensemble, les universitaires et les professionnels. Nous avons dû changer, ou aménager, faire du go-between entre d'autres savoirs pour pouvoir assumer la formation longue des collègues. Et je voudrais simplement dire que pour moi, l'isomorphisme, c'est une question qui me préoccupe dans la mesure où elle cache quelque chose. Il faut savoir si ce n'est pas finalement se dire tranquillement qu'on va partir de la maîtrise, imaginer ou déclarer, et donc ça va mobiliser des savoirs sur comment on construit, comment on transmet, comment on fabrique, comment on certifie, comment on évalue, ou bien si, et là je ne peux que témoigner de ce que nous essayons de construire au quotidien, hein, c'est pas un grand modèle, partons du sujet, confrontés à un réel, et confrontés à des agirs professionnels, qu'est-ce qui peut en faire, en dire, en montrer, et comment il va s'entendre, penser son métier, hein. C'est pour ça que je suis plutôt sur une logique de développement professionnel et personnel. Je suis désolé, on n'en parle pas trop, parce que c'est un peu décalé, mais puisque j'ai dit une des compétences du formateur, c'est quand même de mettre en tension entre des éléments paradoxaux ou contradictoires, et pour répondre, et une autre compétence de formateur, donc on est bien dans une deuxième rupture, c'est de créer du décalage, de l'assumer en tenant le cadre. C'est-à-dire que quand tout est parti, il y a encore ce travail à faire. Et là, dans le master formation de formateur, il y a une chose essentielle que nous essayons de faire, c'est d'apprendre, d'indiquer et de donner les occasions de se colter à cette difficulté qui consiste à tenir le cadre et dont il a été question ce matin. Former mes collègues de 23 ans ou du même âge que moi, c'est rigueur, c'est l'altérité et la différence. En quoi je les reconnais comme moi, professionnel, et en quoi je leur dois une différence. Parce que je dois assumer la tenue du cadre, la tenue de l'institution, comme vous l'avez dit, tout à fait justement. Donc, pour moi, l'isomorphisme, il nous oblige à changer, il me pose la question du changement de paradigme des savoirs théoriques. C'est plus le savoir transmettre, c'est le développement professionnel. Voilà, je réponds de mon point de vue, dans le master auquel j'appartiens, avec lequel je travaille, ça n'est qu'un point.
D'autres interventions, Patrick ?
Merci. Oui, non, simplement deux ou trois choses, puisqu'on se sent un petit peu interpellé, et c'est normal de ne pas avoir apporté les réponses ou les preuves convaincantes de l'efficacité ou de l'efficience des masters. Mais je crois que ça tient aussi à une démarche. On peut difficilement, aujourd'hui, même si on est convaincu chacun que ces masters-là sont bien meilleurs que ce qui existait auparavant comme formation, et pas simplement parce qu'ils permettent de grimper dans la grille indiciaire des qualifications, ce qui, après tout, n'est pas à jeter, mais qui n'est pas ce qui nous pilote essentiellement, je crois que nous avons du mal, parce que nous sommes un peu à prétention scientifique, de vouloir mesurer des effets dont on peut qu'on ne peut pas voir encore, parce que les premières générations de gens qui sont formés à ces masters-là, ils y sont, ou ils viennent d'y passer, et ça n'a pas non plus l'effet collectif que ça devrait pouvoir avoir, parce que ça reste encore des singularités. Les gens qui acceptent, et enfin, moi je les vois depuis 4 ans, je pense que c'est pareil dans les autres universités, de faire ces masters de formation de formateurs, qui pensent qu'ils vont y arriver au bout de la première année. En réalité, ils mettent 2 ans, ils mettent 3 ans, ils mettent 4 ans. Ils ont droit parce qu'ils sont professionnels. Il y a là un surinvestissement d'eux-mêmes. Et ce sont des gens qui sont en but à toutes sortes de choses tout à fait banales dont parlait Françoise tout à l'heure. Hein, ils paient pour faire garder leurs enfants, etc. Enfin, bon, je ne veux pas vous le faire misérabiliste. Mais tout ça pour dire que ce sont des gens super investis qui sont minoritaires dans la profession. On ne peut pas vérifier sur ces personnes-là qui sont en train d'en sortir les effets positifs et se réjouir de ce qui sont nos intuitions d'aujourd'hui est couronné de succès. Voilà. Tout ce qu'on peut faire, je crois, c'est d'être dans l'analyse critique de ce qui se passe en termes de formation actuelle. Mais par exemple, il y a une chose que je dis souvent, je dis ça à la suite de beaucoup de personnes, le système successif en France de formation n'est pas bon, il vaudrait mieux un système simultané. Qu'est-ce que j'en sais ? Je vois bien que le système successif présente pas mal de difficultés et pas mal de conséquences négatives, mais nous ne savons pas ce qu'est un système simultané. Les pays dans lesquels il existe, comme en Allemagne, ne sont pas non plus très satisfaits. Il y a toutes sortes d'autres questions qui se posent qui sont pas comme les nôtres, et je crois que là, il faut quand même garder la prudence, à la fois garder l'enthousiasme militant et le passionnel auquel faisait allusion Michel ce matin, mais garder la prudence. Donc, moi aussi, j'ai entendu beaucoup de choses qui, à mes oreilles, je les trouve extrêmement positives, mais il me semble qu'on y aurait une majoration de validité de ça si on dit voilà quelles sont les solutions. C'est bien un des problèmes en France, c'est que le nombre considérable d'innovations, etc., n'est jamais évalué selon des procédures qui fassent à peu près accord, qui permettraient qu'on regarde, que l'on confronte. Vous savez bien, comme moi, qu'on est déjà dans la phase d'institutionnalisation de choses qui n'ont pas été testées, et que quand on franchit ce cap, non seulement on mécontente ceux qu'ils avaient menés parce qu'ils s'estiment trahis, forcément toute banalisation casse l'intuition initiale, en même temps on prend à contre-pied ceux qui n'ont jamais été questionnés sur la nature même de ces innovations, ce qui est une bonne manière de rater dans tous les cas. Donc voilà, moi il me semble que si on s'inscrivait dans quelque chose de triomphaliste tout de suite, on tomberait, bon, triomphaliste j'exagère bien sûr, mais en tout cas, alors peut-être qu'on est trop modeste, mais je crois qu'il faut être prudent et garder la même attitude critique qui préside à la déconstruction du système que celle qui préside à sa reconstruction, même si en effet ça peut paraître des démoralisateurs, mais il y a beaucoup de choses tout à fait intéressantes. Les enseignants qui survivent dans les ZEP aujourd'hui sont des gens qui ont un capital considérable d'expérience, qui ne font pas rien, sinon il y a longtemps que l'éducation nationale aurait totalement implosé, ce qu'en toute logique elle aurait dû faire à mon avis.
Et d'ailleurs, les propos, les évaluations des UFM ne sont pas aussi négatives que ça si on regarde des rapports assez sérieux qui ont pu montrer qu'au-delà des commentaires au vitriol des stagiaires, il y a quand même des choses qui bougent, qui évoluent. Enfin bon, je ne vais pas en faire trop là-dessus. Une dernière question, Michel, à moins que tu veuilles reprendre le fil. Peut-être il y a encore une ou deux questions de gens qui veulent réagir.
Oui, peut-être je voulais réagir un peu à cette remarque sur les effets, sur les contenus pour lesquels on n'a pas eu tellement suffisamment de précision. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu suffisamment d'informations sur, disons, les initiatives qui étaient prises ici ou là dans les universités, dans les académies. Par contre, ce qui m'apparaît, c'est qu'il nous manque peut-être, à propos de ces masters de formation de formateurs, peut-être un cahier des charges qui existe davantage. Après, il est contesté, il est contestable, il est travaillé actuellement. Il existe un cahier des charges pour les masters de formation des maîtres. Et je pense que ce guide, ce cahier des charges, permet d'avoir des garanties sur ce qu'on peut avoir comme contenu de formation aux quatre coins du territoire français. C'est pas le cas actuellement, il me semble, au niveau de master de formation de formateurs. Alors je dis pas qu'il faudrait, par ce cahier des charges, avoir des masters qui soient tous identiques, exactement les mêmes, et qu'on ne laisse pas aux acteurs la possibilité de développer une réflexion, d'utiliser les ressources locales, de privilégier tel ou tel aspect. C'est un cahier des charges peut y compris proposer cela, proposer cette marge de manœuvre, d'autonomie, de liberté localement. Mais il me semble que un rendez-vous comme celui-ci est intéressant parce que un cahier des charges construit en partenariat avec université, UFM au sein des universités, avec l'INRP qui me semble a une parole forte à apporter à ce niveau-là, avec les rectorats aussi. J'ai bien compris quelquefois que dans un regroupement de cols roulés, on ne comprend pas toujours ceux qui portent la cravate et qu'on leur prête quelquefois des idées, des représentations, raisonnements qu'ils n'ont pas. Je pense qu'il y a intérêt à travailler. Non, mais col roulé l'hiver, je reconnais que là, on n'est pas encore à... Non, ça me rappelle un moment, il m'arrive quelquefois de prendre un peu de recul sur nos pratiques aux uns et aux autres, notre vision des choses aux uns aux autres. Et dans un sketch que j'avais fait, un milieu qui était assez partagé entre représentant de l'IUFM et du rectorat, j'avais parlé de cette opposition quelquefois entre ceux qui portent col roulé et ceux qui portent cravate, et qu'il fallait de temps en temps passer par-dessus ces représentations, ces idées un peu caricaturales qu'on peut avoir de ce que pensent les uns et les autres. C'est une excellente occasion, à propos de ces masters de formation de formateurs, d'échanger et de travailler à construire un cahier des charges qu'on pourrait s'appliquer à minima au niveau d'une académie, ça me paraît intéressant, et mieux encore au niveau national. Et je pense que l'INRP, qui est un organisme, un institut national, a vocation peut-être à provoquer ce qui a été fait aujourd'hui, ce type d'échange.
Merci Régis d'avoir fait une partie déjà de mon travail là, de conclusion et puis de centrer. Ah bon.
Est-ce que j'en prie?
Vas-y, je t'en prie.
Est-ce que j'ai pas épuisé complètement mon temps de parole? Non, deux petites choses, mais je vais pas saboter ton introduction, Michel. Sur le cahier des charges, je crois qu'il faut aussi y faire attention. Hein. Ça, c'est l'universitaire qui parle. Allez donc expliquer aux universités, à leurs conseils scientifiques notamment, qu'il faut un cahier des charges pour des masters. Bon, vous verrez que la discussion ne manque pas d'intérêt. Essayez de leur parler de référentiel de compétences, vous verrez aussi que ça ne manque pas d'intérêt. Donc on est là sur un terrain difficile, mais c'est pas pour dire qu'il faut pas de cahier des charges, mais c'est pour qu'on soit rigoureux. Ainsi, vous voyez, je suis en train de changer un petit peu de registre, hein, soit un peu rigoureux dans la construction de ce cahier des charges-là. Hein, parce que on peut aussi se mettre, sous prétexte qu'on a un cahier des charges, dans cette histoire qu'on se raconte entre soi, enfin, comme j'évoquais tout à l'heure, où malheureusement, la deuxième chose que je voudrais dire, où malheureusement, on est parfois empêché d'agir, malgré les belles histoires qu'on se raconte. C'est simplement ça dont j'ai voulu témoigner. Moi, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé venir vous dire, mais on a avancé, on a des réponses sur ce que doit être un master de formation de formateur, puisqu'on en a un projet. Mais je suis désolé, moi, je ne peux pas mobiliser mes collègues plus que nous ne l'avons fait pour assurer l'ordinaire, c'est-à-dire former les stagiaires et les étudiants qui sont sous notre responsabilité. Et nous attendons avec une certaine impatience de connaître quelles seront les vraies règles du jeu. Parce qu'on peut réfléchir à la formation de formateurs d'enseignants, mais tant qu'on ne connaît pas comment on recrute les enseignants, et quand on ne connaît pas justement ce que sera peut-être un cahier des charges ou en tout cas un cadrage national des masters de formation des enseignants, je crois qu'il est difficile de se mettre au travail. Alors il y a des collègues ici qui ont présenté des projets, enfin plus que des projets, enfin si, un projet, ou d'autres des masters existants parce que antérieurement ils avaient pu anticiper. Bon, nous ne l'avons pas fait à Lyon pour les raisons que j'évoquais un petit peu tout à l'heure sur l'histoire du presse. Et c'est bien dommage, hein, parce que je crois que tout le monde, un peu partout, a bien compris que c'est un enjeu stratégique, quel que soit l'avenir institutionnel de la formation des maîtres. Et puis, à toutes fins utiles, je ne suis pas du tout, même si j'en ai donné l'apparence, un défenseur des UFM dans le maintien de ce qu'ils sont. Alors, vraiment, si vous avez pu croire cela, je me suis mal fait comprendre. Voilà, Michel.
Non, on peut te faire crédit, Régis, pour dire que tu n'es pas un intégriste. Bon, voilà, c'est dit. Les cols roulés et les cravates, bon, ben, c'est oui. J'ai souvenir d'un moment de formation ici, et où j'avais découvert là une opposition entre blouse blanche et blouse grise. J'ai vu que ça était quand même quelque chose de très important. La blouse blanche, c'est les chercheurs en neurosciences, etc. Il s'agissait de la lecture. Et blouse grise, et ben, c'est des gens qui essayaient modestement d'apprendre aux gamins et qui trouvaient que les blouses blanches en prenaient un peu à leur aise. Bref, bon, oui, effectivement, ce sont des typologies intéressantes. Alors, Déjà, Régis, et les deux Régis, parce que c'est deux Régis finalement, ont donné des éléments, je pense, de conclusion de cette journée. Bon, on ne va pas enfermer tout dans cette conclusion. Moi, j'y vois la confirmation mais de quelque chose que je savais déjà auparavant. Je crois que pour l'INRP, là, dont je m'occupe du service formation, il y a un besoin vital à la fois de mettre des choses en perspective. Là, je parle pour les chercheurs, experts, développeurs de ressources, experts en transfert, etc., qui le constituent. Je crois qu'ils ne peuvent absolument pas travailler s'ils n'ont pas une idée du paysage global. Bon, mais ça, je crois qu'ils en sont convaincus. Et puis, il y a l'autre idée forte, sans laquelle l'INRP n'existe pas non plus. Alors, ça, c'est aussi vrai de la formation que de la recherche ou de l'expertise, ou de la production de ressources, c'est celle de mise en réseau, c'est celle que Richard Etienne mettait en avant ce matin. Moi, j'ai envie de dire, sur cette question formation de formateurs, ce qui est tout à fait central pour nous, hein, chiche, si on peut aider, si on peut aider à cette mise en réseau. Bon, Luc Ria vient de nous rejoindre. On a un peu de logistique, on s'est organisé. Alors, probablement, ça prendrait une autre forme quand même que ce simple échange d'idées. On serait sur des choses qui ressembleraient plus à des ateliers, stricto sensu, et des endroits où on construit. Le cahier des charges, je me réfère là prudemment à ce que disait Patrick Rayou il y a un instant. Il me paraît autant un résultat dans cette affaire qu'un préalable, un préalable au travail. Hein. S'il faut 3 ou 4 ans de tâtonnement pour mettre quelque chose d'à peu près debout, eh ben c'est pareil pour un cahier des charges et même au-delà. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors, ce que j'ai compris, là, je ne sais même pas si c'est tellement la peine d'y revenir, mais quand même, on voit bien, à travers les témoignages des uns et des autres, qu'il y a sur cet objet-là, cette formation de formateurs, une occasion de travail avec l'université. Alors, qui a l'inconvénient de reposer sur des hypothèses, forcément, ça c'est Régis qui a beaucoup insisté là-dessus, mais qui est une forme de travail quand même beaucoup moins contraint que l'exercice auquel les UFM et les universités sont en train de se livrer sur la formation des enseignants. On voit bien que là, les possibles sont beaucoup plus ouverts, parce que il n'y a pas de prescription institutionnelle là-dessus. Personne n'exige la création de ces masters. Et du coup, bon, il n'y a pas encore de cahier des charges non plus, bien sûr. Ça, c'est la conséquence. Bon. J'ai cru percevoir aussi que c'était quelque chose d'important. Ça va faire bondir Régis, tant pis, comme élément d'identité pour les IUFM, comme c'est un élément important pour les départements de sciences de l'éducation. Bon, pour faire très vite, on pourrait dire que il y aurait là, ou il y aura là, il peut y avoir là, une sorte de carte de visite pour les IUFM, pour être reconnus par ceux qui constituent aujourd'hui ces interlocuteurs obligés. Alors, en termes de besoins, il n'est pas absurde, on l'a compris, de parier sur le fait qu'il y a un public qui existe. Bon, ça, ça a été vérifié là où il y a des masters de formation de formateurs, et que ce public devrait s'accroître, selon toute vraisemblance, dans les années qui viennent. C'est une analyse qui a été faite par les intervenants. Moi, j'ai progressé sur un autre point, j'ai mieux compris cette question qui me turlupine, bon, parce que bon, elle n'est pas complètement réglée hein, après cette journée-là, mais la question de l'articulation à la recherche. Je pense qu'à travers les exemples qu'ont donné certains d'entre vous, et qui étaient des exemples donc qu'on peut vérifier, enfin des choses que vous aviez faites effectivement, on avait au moins une partie des réponses là-dessus. On a eu aussi, je crois, des éclairages intéressants, des réponses sur les périmètres souhaitables. C'est bon, on ne va pas parler de consensus, mais l'idée que la cohabitation, tout de même, de références à plusieurs métiers, dans ces métiers de l'humain, bon, pourquoi pas, dans ces recherches de formation de formateurs, était important, était, je dirais, même au cœur de la démarche qui était faite à certains endroits. Alors après, bien sûr, selon les témoignages des uns et des autres, on voit jouer des rapports de force locaux. On voit jouer aussi, et ça, je vois pas comment ça peut être évité, on le voit bien sur les filiations des ESS, ensuite Master 2, des situations hantées à partir desquelles les uns et les autres sont amenés à travailler. Je crois que là, il n'y a pas de choix, c'est-à-dire que, sauf à être Khmer Rouge, on ne peut pas effacer d'un trait de plume ce qui existe. Il faut bien partir des moyens qu'on a à sa disposition. Anne-Marie soulignait le caractère contraint de la mise en œuvre. Après tout, on n'a pas le choix et l'université, je caricature un peu sa pensée, mais étend ses tentacules sur l'ensemble. Et bon, peut-être que pour ne pas voir les choses simplement sur ce côté en noir, on pourrait dire qu'il y a quand même ce que je crois avoir compris, des opportunités de ne rien lâcher, au fond, de ce qui fait pour les uns et pour les autres la substance du métier, et dans un cadre assez modelable, je le disais tout à l'heure, pour peu qu'on sache à peu près où on va. Bon, donc la nécessité, mais ça on le savait aussi avant cette journée, d'avoir une stratégie dans cette affaire et puis de s'y tenir. Et puis que, tous les masters n'ont pas la pérennité de celui de Montpellier, mais au bout de 20 ans, on peut quand même savoir à peu près où on met les pieds, quoi, on va dire comme ça.